Théologie mystique, Père Philippe, 7 janvier 1983, Rimont.
Nous avions essayé de voir comment les Lévites et les prêtres venant de Jérusalem, mandatés par les autorités religieuses, viennent auprès de Jean-Baptiste pour l'interroger et pour savoir qui il est. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous à bien saisir, c'est de comprendre la manière dont les théologiens, les docteurs en Israël, attendent la venue du Christ et la manière dont Jean-Baptiste attend la venue du Christ. Étant donné que cette attente de la venue du Christ est pour nous comme un signe de notre attente eschatologique. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que si le prologue de Saint Jean est la charte de la charité fraternelle, ce qui nous est montré dans Jean-Baptiste, nous comprenons l'exigence de l'espérance eschatologique. Jean-Baptiste nous montre ce qu'est l'espérance eschatologique. Et il y a un contraste qui est extrêmement net et qui est très important pour nous à saisir. Le contraste entre le point de vue des Lévites et des prêtres qui attendent le Messie. C'est bien évident, puisqu'ils interrogent Jean-Baptiste pour savoir s'il est le Messie, s'il est le prof, s'il est Élie, s'il est le prophète. Donc on voit bien qu'ils sont anxieux. Ce n'est pas l'anxiété qui est une attente divine. L'anxiété, c'est une attente humaine. Quand on attend humainement, on est toujours un peu anxieux. Quand on attend divinement, il n'y a pas d'anxiété. C'est important à bien saisir la différence. Hein. Les Lévites et les prêtres attendent le Messie en regardant l'Écriture. Et ils attendent le Messie comme celui qui doit venir confirmer que leur vie est bien ce que Dieu veut qu'elle soit. Tandis que Jean-Baptiste, il attend le Messie comme un pauvre. Il n'a rien à confirmer, puisqu'il est un pauvre. Il n'a rien. Il attend le Messie comme celui qui est le Sauveur, comme celui qui doit tout reprendre, comme celui qui est donné gratuitement. L'espérance de ces Lévites et de ces prêtres liée à celle des pharisiens, parce que Jean souligne, elle est liée à celle des pharisiens. C'est donc une espérance qui consiste tout simplement à savoir que ce qu'on fait, c'est bien. Avoir cette espèce d'assurance qu'on est dans la bonne voie. Vous savez, ça existe de temps en temps, ça. On est dans la bonne voie, on est du bon côté. Nous sommes bien dans ce qu'il faut faire. Alors à ce moment-là, ce n'est plus l'espérance divine. C'est l'espoir humain. L'espoir humain, c'est d'avoir qu'un seul désir, que ce soit confirmé comme ce qui est bien. Tandis que Jean-Baptiste, il vit d'une espérance toute divine. L'espérance divine fait de nous des pauvres. Saint Thomas souligne que l'exercice tout à fait divin de la vertu théologale de l'espérance se fait grâce au don de crainte. C'est le don de crainte qui permet à la vertu théologale d'espérance de s'exercer divinement et donc de s'exercer d'une manière ultime comme une espérance eschatologique, qu'une espérance qui va jusqu'au bout des exigences de l'espérance. Là, je crois que ceci, c'est très important pour nous à noter. Le don de crainte s'épanouit dans la béatitude des pauvres. C'est pour cela que l'exercice divin de l'espérance nous met dans un état de pauvreté. La pauvreté éthéologale. La vertu d'humilité n'est pas immédiatement théologale. Il faut bien distinguer la vertu d'humilité et la pauvreté. Ce n'est pas si commode que ça, du reste, à bien distinguer les deux. Parce que le don de crainte qui nous met dans un état de pauvreté, de béatitude de pauvreté, le don de crainte permet l'exercice divin de l'humilité. L'exercice divin de l'humilité, c'est considérer qu'on n'est rien, comme dit la grande Sainte Thérèse. Ça, c'est l'exercice divin de l'humilité. Et c'est Sainte Catherine qui nous dit que la créature est d'abord néant avant que d'être être. Et donc, c'est de considérer notre néant et par le fait même être dans un état d'attente à l'égard du secours de Dieu. C'est le propre de l'exercice divin de la vertu d'espérance. C'est de considérer qu'on est totalement dépendant du secours actuel de Dieu. On est suspendu, in manus tuas, on est dans les mains de Dieu. Ça, c'est l'exercice divin de la vertu théologale d'espérance, qui creuse en nous une pauvreté divine, qui creuse en nous un état de dépendance radicale, de mendicité, mais de mendicité divine, où on reçoit de Dieu le secours. Mais, tandis que la vertu d'humilité, c'est une vertu acquise. La pauvreté spirituelle n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. On s'engage dans le vœu de pauvreté en sachant qu'on ne peut le vivre que grâce au don de crainte. On ne peut pas le vivre autrement, c'est impossible. Et on ne fait pas un vœu d'humilité, on fait un vœu de pauvreté. C'est tout à fait différent. C'est là où on voit comment les vertus de religion sont théologales. Elles ne sont pas premièrement du côté de l'homme. Elles sont théologales, elles sont pour le développement plénier des vertus théologiques, des vertus théologales. Si je fais vœu de pauvreté, si je fais vœu de virginité, vœu d'obéissance, c'est pour vivre davantage de l'espérance, de la foi et de la charité. Ce n'est pas pour autre chose. Toute la vie religieuse est ordonnée aux vertus théologales. Et elle est pour l'épanouissement divin des vertus théologales. C'est pour nous alléger. C'est pour permettre au Père d'opérer une taille magistrale. C'est la taille du Père. Et je crois que quand on regarde Jean-Baptiste, on a l'impression d'une taille assez magistrale. Du moins, moi, c'est comme ça que je vois Jean-Baptiste. C'est une taille magistrale du Père. C'est l'Ancien Testament qui est taillé d'une manière étonnante. Alors, c'est là où il y aurait quelque chose de très beau à faire et de très grand. Je parle là surtout aux artistes. Hein. Le point de départ est le terme. C'est la cause exemplaire que je regarde ici. Le point de départ est le terme de ce que représente l'ancienne alliance d'Abraham à Jean-Baptiste. Abraham ouvre une maison, Jean-Baptiste la ferme. C'est plus facile d'ouvrir une maison, bien que ce ne soit pas commode, on sait très bien, c'est plus facile d'ouvrir une maison que d'en fermer. C'est plus facile. Parce qu'il y a une espérance qui est là pour montrer que tout ce qu'on fait va porter des fruits. Tandis que fermer une maison, c'est pas commode du tout. Abraham ouvre une maison. Jean-Baptiste en ferme une. Et c'est très curieux que Abraham, c'est le père des croyants. Et Jean-Baptiste, je ne dis pas que c'est le père de l'espérance. c'est le petit enfant de l'espérance, parce qu'il n'y a pas de paternité du côté de l'espérance. C'est le petit enfant de l'espérance. C'est celui qui nous montre ce que représente l'espérance toute divine. Avoir la force de fermer une maison et de dire au peuple d'Israël, c'est terminé, laissez passer devant l'agneau. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense ça. Abraham ouvre la maison dans la foi. Et Jean-Baptiste ferme la maison dans la petitesse de l'espérance, dans la pauvreté de l'espérance. Mais les deux, voyez, nous font comprendre ce que c'est que l'ancienne alliance, Abraham et Jean-Baptiste. Et ce sont deux exemples merveilleux, l'exemple de la foi, l'exemple de l'espérance. Nous verrons l'exemple de la foi dans Abraham, hein, quand on entrera dans la Genèse et qu'on sera Abraham, parce que ça... J'y tiens beaucoup de voir avec vous Abraham comme exemplaire de la foi. Et Jean-Baptiste, c'est l'exemplaire de l'espérance. Et l'Esprit-Saint les a sculptés l'un et l'autre pour que nous comprenions à travers Abraham ce qu'est le modèle de la foi et à travers Jean-Baptiste le modèle de l'espérance. Mais qu'à regarder l'un et l'autre, c'est assez extraordinaire de voir ça. Ce sont deux personnages uniques. Abraham et Jean-Baptiste. Abraham doit quitter toute la grande culture d'Our. C'est la vocation d'Abraham. Pour aller vers une terre promise. Donc il est projeté, si vous voulez, sur la route. C'est le mystère de la foi. La foi nous fait quitter la culture humaine pour entrer dans la lumière de Dieu. L'espérance met Jean-Baptiste au désert. C'est très curieux parce que très souvent nous mettons la foi et le désert. Si je regarde Abraham, Abraham n'a pas été tellement au désert. C'est pas l'homme du désert, Abraham. Comment voulez-vous avec Sarah? C'est impossible, c'est l'homme du désert. Avec son cheptel et sa race, il ne peut pas être l'homme du désert. Tandis que Jean-Baptiste, c'est l'homme du désert. Il est seul. Et Jean-Baptiste, c'est l'espérance. Alors là, il y a quelque chose qui serait très important à bien regarder au point de vue théologie mystique. Comment la foi demande le dépassement de toute la culture humaine. La culture d'Our, de Babylone, la grande culture de l'époque. Et l'espérance nous met dans le désert. Alors, poussons ça jusqu'au bout, parce que c'est important de saisir cela, à travers ces deux grandes physionomies, Abraham et Jean-Baptiste. Vous voyez, n'oublions pas hein, que dans l'ordre de la théologie mystique, on doit se servir beaucoup de la cause exemplaire. Et la cause exemplaire, elle nous est donnée là d'une manière magnifique. L'exemplarité d'Abraham et l'exemplarité de Jean-Baptiste, c'est très étonnant ça. Dans deux perspectives tout à fait différentes. L'incarnation de la foi, l'incarnation de l'espérance. L'incarnation de la foi et d'espérance dans l'Ancien Testament, c'est Abraham et Jean-Baptiste. Et ces deux incarnations seront dépassées par Marie. Mais nous y reviendrons ensuite, quand nous verrons Marie au pied de la croix. Alors Marie au pied de la croix nous fait comprendre le dépassement de l'exemplarité d'Abraham et le dépassement de l'exemplarité de Jean-Baptiste. Et Marie à la croix, elle est au-delà d'Abraham, au-delà de Jean-Baptiste, dans sa foi et son espérance. Mais il faut bien voir ces deux exemplarités, parce qu'elles sont très étonnantes. Ça c'est la sculpture du Saint-Esprit. Voyez la vocation d'Abraham. Il a 75 ans. Pas si mal. Enfin, ordinairement, quand quelqu'un a 75 ans et qu'il vient frapper à une porte de la vie religieuse, on lui dit, écoutez, c'est très très bien, mais vous savez, à 75 ans, c'est difficile de faire peau neuve. Il vaut mieux rester dans le monde, vous sanctifier dans le monde, prenez une vie qui soit... C'est vrai, c'est très difficile à 75 ans d'appeler Dieu. Dieu a été très miséricordieux avec Abraham, puisque il lui a laissé Sarah, il lui a laissé son cheptel, il lui a laissé quand même pas mal de choses, hein. Mais il n'a pas fait de votre pauvreté, Abraham, non, non, jamais, jamais. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Abraham ne pouvait pas faire de votre pauvreté. C'est très différent. C'est le pieux laïc, comme on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, c'est le laïca dans toute sa splendeur. Il emporte Sarah, il emporte le cheptel. Il emporte Lot, et Lot emporte aussi son cheptel. Mais on voit que sans la vie religieuse, on ne peut pas vivre en commun. Et alors, au bout d'un certain temps, il y a un petit événement qui se passe, et il est obligé. Si tu vas à droite, je vais à gauche, si je vais à gauche. Et ça, c'est la charité fraternelle du laïca. N'est-ce pas ? C'est extraordinaire. C'est très étonnant de voir ça. Parce que c'est quand même très, très beau de voir ça. Parce que, petite lutte, c'est quelque chose d'assez beau. Alors, on voit qu'Abraham, vocation à 75 ans. Pas si mal. Jean-Baptiste, 6 mois après sa conception. Vous voyez les fantaisies du Saint-Esprit, au point de vue des vocations. Ça ne peut pas aller beaucoup mieux. Demandez ça à un psychanalyste, hein, c'est quand même assez remarquable. La vocation d'Abraham, de cette manière-là, ça enveloppe toutes les vocations. La vocation d'Abraham, 75 ans. Jean-Baptiste, 6 mois dans le sein de sa mère. Si on vous demande depuis combien de temps avez-vous votre vocation ? Depuis combien de temps pensez-vous à vous donner entièrement, Seigneur ? Depuis 6 mois après ma conception. Vous diriez ça, on dirait, mais il est fou, complètement dingue. Complètement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Jean-Baptiste, sanctifié dès le sein de sa mère. Et sanctifié de cette manière très très forte, qui est vraiment totalement donnée au Seigneur. Alors vous voyez que c'est beau, la vocation de la foi. 75 ans, pourquoi ? Pour nous faire comprendre que la foi est un dépassement de la prudence. Je crois qu'Abraham a une très grande prudence. À 75 ans, quand même, on a le droit d'avoir une bonne prudence, hein, puisque la prudence, il faut beaucoup d'expérience. Et alors, à 75 ans, quand on est marié avec Sarah, on a une grande expérience de la vie. Donc une grande prudence, la prudence d'Abraham est remarquable. Le dépassement de la prudence, on ne déracine pas les vieux arbres. Aujourd'hui, quand vous déracinez les vieux arbres, il faut emmener beaucoup de terre autour. Hein. On sait très bien qu'on ne déracine pas les vieux arbres. On a déraciné Abraham. La vocation d'Abraham, c'est un déracinement extraordinaire vers la terre promise, vers quelque chose, on ne sait pas très bien. L'espérance, c'est la pauvreté, c'est la dépendance. L'espérance, elle est manifestée à travers la vocation du petit Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère. Il faut le mystère de l'Église pour que l'espérance aille jusqu'au bout. C'est dans le sein maternel. C'est là où la pauvreté est la plus grande, la dépendance la plus grande. Et l'espérance de Jean-Baptiste, elle commence là. Voyez comment le Saint-Esprit nous parle à travers ces deux exemples, hein, qui sont magnifiques, l'espérance et la foi. Allons un peu plus loin. C'est toujours pour essayer de comprendre les liens. C'est Saint-Augustin qui nous dit ça. Pourquoi Saint-Augustin nous dit que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est la foi et l'espérance. La charité est présente, mais la charité est dépendante de la foi et de l'espérance dans l'Ancien Testament. C'est très beau, du reste, comme vision par rapport à l'Ancienne Alliance. Il nous montre que ce qui caractérise la Nouvelle Alliance, c'est que la charité va plus loin que la foi et l'espérance. Tandis que dans l'Ancien Testament, la charité n'était pas entièrement libre. Alors elle était comme conditionnée, mais tellement conditionnée qu'elle était comme déterminée par la foi et l'espérance. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, la foi et l'espérance demeurent, mais la charité va plus loin. Et c'est bien ce que nous voyons. Nous voyons Abraham, Jean-Baptiste, l'agneau. Ce que nous allons voir, ça c'est la vocation de Jean, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est le mystère de l'amour. Vous avez donc foi, espérance et amour. Et à partir de la vision de l'agneau, tout est repris. La nouvelle alliance commence par le mystère de l'agneau. Et c'est le mystère de l'agneau qui reprend tout. Alors, vous comprenez mieux, là, comment Jean-Baptiste et Abraham nous aident à comprendre ce que représente l'ancienne alliance, qui est une alliance dans la foi et dans l'espérance. Et la nouvelle alliance est une alliance dans l'amour. L'amour existait déjà dans l'Ancien Testament, mais pas avec la même liberté. Quand je regarde la vocation d'Abraham, je vois que la grande épreuve d'Abraham, c'est l'offrande de son fils. Vous savez bien comment se passe ce moment que nous verrons, parce que c'est un des très grands passages de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu demande à Abraham l'offrande de son fils qui a 12 ans, de son petit Isaac, celui qu'il aime. Abraham obéit dans le silence et il exécute. À 3 jours de marche sur la montagne de Moïra. Et le dernier jour, les serviteurs restent à l'écart et Abraham est seul avec son fils. La dernière journée. Le petit Isaac ne porte pas de secret. Il est libre. Tandis qu'Abraham porte un secret terrible. La foi nous fait porter les volontés de Dieu. Et c'est une volonté terrible, puisque c'est le glaive. Puisque Abraham doit lui-même offrir Isaac. Il n'y a que Dieu qui peut demander des choses comme ça. Donc, Abraham est dans le silence. Quand on porte un secret, on est dans le silence. Un silence douloureux. Il compte les heures. Il sait très bien ce que ça signifie pour lui, cette montée vers la montagne de Moïra. Le petit Isaac ne porte pas de secret. C'est l'enfant. Il est libre. C'est le portrait merveilleux de l'enfant, Isaac. De façon étonnante. Je crois qu'il n'y a pas un enfant qu'on a montré aussi bien que le petit Isaac. C'est merveilleux. Vous comprenez, il est enveloppé de tout l'amour de sa mère. C'est un peu captatif, mais quand même, quand il est jeune, ça n'a pas d'importance. Alors on voit très bien le petit Isaac, il est complètement enveloppé par sa mère. Et son père l'aime comme un père et un grand-père. Alors c'est merveilleux, l'amour d'Abraham vis-à-vis du petit Isaac. Il est choyé, le petit Isaac. Alors il est libre, il est de liberté extraordinaire. Il sent bien que le père n'est pas tout à fait comme d'habitude, qu'il est beaucoup trop grand-père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il pose la question terrible, la seule question qu'Abraham avait peur qu'on lui pose. Père, je vois bien, père. Il le réveille. Père, je vois bien le feu. Je vois bien le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il est aveugle, petit Isaac. Il ne le voit pas. Abraham sait. Abraham ne peut pas répondre. Mais ça, c'est la foi. Abraham ne peut pas répondre. Dieu y pourvoira. Et Jean-Baptiste répond. Voici l'agneau de Dieu. Mais ça, c'est les réponses. L'Ancien Testament est tout entier pour la venue de l'agneau. Voilà la grande vision qui nous est montrée et que Jean-Baptiste nous montre. C'est Jean-Baptiste qui est le prophète dernier. Donc c'est Jean-Baptiste qui nous donne la signification profonde du peuple d'Israël. Ce n'est pas les grands prêtres, ce n'est pas les Lévites, ce n'est pas les pharisiens. Jean-Baptiste seul. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean est beaucoup plus proche du peuple d'Israël que n'importe quel autre évangile, parce que Jean est le disciple de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui donne la signification profonde du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est pour la venue de l'agneau. C'est Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire de voir que c'est l'espérance qui indique où est l'agneau, alors que la foi ne peut pas. Et c'est Jean-Baptiste. Et toute la fonction de Jean-Baptiste, c'est de dire, voici l'agneau de Dieu. C'est l'espérance qui s'appuie sur la miséricorde. L'agneau, c'est la miséricorde. C'est le grand symbolisme de la miséricorde, l'agneau. Et c'est l'espérance qui indique cela. C'est l'espérance pauvre qui indique où est la miséricorde, le lieu de la miséricorde, c'est l'agneau. Alors voyez la différence et le parallélisme assez étonnant entre Abraham et Jean-Baptiste. Alors il faut comprendre cela, parce qu'ils sont tous les deux aux deux extrémités de l'alliance ancienne. Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui pour lequel moi j'ai dit, après moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais pour qu'il fût manifesté à Israël, voilà pourquoi je suis venu, moi, baptisant dans l'eau. Et Jean témoigna en disant, j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe, venant du ciel, et il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Christ. Vous voyez, j'allais dire le sommet du témoignage de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui, éclairé par l'Esprit Saint, découvre que Jésus, son cousin, c'est l'agneau. Quand il y a là cette expérience nouvelle qui vient directement de l'Esprit Saint et qui fait comprendre que Jean-Baptiste est prophète et que c'est le plus grand des prophètes, comme dit Jésus, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète, c'est celui qui voit au-delà des apparences le mystère. C'est le propre du prophète. C'est celui qui, au-delà des apparences, voit le mystère. Jean-Baptiste voit les apparences, Jésus. Jésus vient vers lui. C'est Jésus venant vers lui. Et ça, c'est très beau. Jésus a entendu le cri de l'enfant dans le désert. Jésus n'a pas été au-devant des lévites et des prêtres. Parce que ça n'aurait servi à rien. Pour découvrir l'agneau, il faut être pauvre. Seul le pauvre peut découvrir l'agneau. Seul le pauvre est capable de recevoir l'agneau. Parce que le pauvre, il est celui qui attend la miséricorde. Et plus il est pauvre, plus il attend la miséricorde. Et la miséricorde par excellence, la cause exemplaire de la miséricorde, c'est l'agneau. C'est vraiment l'agneau qui fait comprendre ce que c'est la miséricorde. Alors, on voit très bien Jésus qui vient au-devant du pauvre. Je vous ai dit, la pauvreté de Jean-Baptiste, il est le pauvre parce qu'il attend, parce qu'il n'a rien, parce qu'il est tout entier attente de celui qui doit venir.
Il est pauvre aussi parce que son témoignage n'a pas été reçu auprès de ses lévites et ses prêtres. Et donc il connaît à ce moment-là la pauvreté du témoin. C'est une pauvreté encore plus terrible de sentir que le témoignage qu'on donne n'est pas reçu. Parce qu'à ce moment-là, on sent comme une inefficacité totale de toute sa vie. Il est venu pour cela, pour annoncer que le Messie allait arriver. Il était en face des Lévites et des prêtres qui venaient de Jérusalem. Et ces Lévites et ces prêtres représentaient donc toute la tente de Jérusalem, toute la tente des grands prêtres. Si ces Lévites et ces prêtres auraient reçu le message de Jean-Baptiste, si ces Lévites et ces prêtres auraient demandé le baptême de l'eau et étaient retournés auprès de leurs envoyés, auprès du grand prêtre en disant qu'au désert, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est un envoyé de Dieu et un envoyé du Saint-Esprit. Peut-être que les grands prêtres seraient venus demander le baptême d'eau. Ça aurait été des choses extraordinaires. À ce moment-là, ils auraient été capables de reconnaître l'agneau. Et Jean-Baptiste a été inefficace dans son témoignage. C'est ce qu'il y a de plus rude pour l'apôtre de sentir l'inefficacité de son témoignage. Et Jean-Baptiste a connu cela. Et c'est quand Jean-Baptiste connaît l'inefficacité de son témoignage que l'agneau se manifeste à lui. Et ça, c'est très très fort, hein, au point de vue théologique, au point de vue de la conduite de l'Esprit Saint. C'est accepter l'échec le plus terrible qui soit, l'échec dans son témoignage. Il ne faut pas le rechercher, hein. Mais il faut accepter l'échec dans son témoignage pour pouvoir être capable de recevoir l'agneau. Pour être capable de toucher le mystère de l'agneau. De découvrir le mystère de l'agneau. Faut aller jusque-là dans la pauvreté. Et alors à ce moment-là, il y a cette expérience intime, cette expérience divine, cette expérience mystique que fait Jean-Baptiste. Il n'est plus de l'Ancien Testament quand il voit l'agneau. Il est celui qui entre, est au seuil. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et alors vous voyez bien là comment Jean-Baptiste achève toute la mission d'Abraham. L'espérance achève tout le témoignage de la foi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors regardons bien ce lien qui existe entre Jean-Baptiste et Abraham. C'est l'agneau qui les unit. Abraham ne peut pas savoir qui est l'agneau. Il croit que c'est son fils. Il souffre. Il a souffert pour Jean-Baptiste, hein. C'est bien évident qu'Abraham a souffert pour Jean-Baptiste. Il a souffert pour que Jean-Baptiste soit le témoin, pour que Jean-Baptiste, dans son espérance, découvre l'agneau. La souffrance d'Abraham, au moment où il dit « Dieu pourvoira », c'est une souffrance terrible, hein. C'est la souffrance du père, qu'il ne peut pas, qu'il n'ose pas regarder l'holocauste de son fils. On peut dire aussi que là, nous découvrons le lien qui existe entre Jean-Baptiste et Isaïe. Isaïe, dans ce qu'il a de plus grand, c'est le prophète de l'agneau. C'est vrai que Jean-Baptiste est lié à Abraham et il est lié à Jean-Baptiste. Et des deux côtés, c'est le mystère de l'agneau qui les unit. Ça vous fait comprendre l'importance de cette révélation de l'agneau. Puisque c'est au cœur de toute l'épreuve d'Abraham. C'est donc au cœur de l'épreuve du... C'est donc au cœur de l'épreuve du Père. Et c'est présent à la grande prophétie d'Isaïe. La grande prophétie d'Isaïe, du serviteur de Yahvé, qui découvre le mystère de l'agneau comme celui qui doit porter l'iniquité du monde. Le serviteur douloureux. Vous savez qu'en araméen, serviteur et agneau, c'est la même expression. Jean écrit son évangile en grec. Il n'est pas serviteur. Jean-Baptiste ne dit pas « Voici le serviteur de Dieu ». Il dit « Agneau ». C'est important pour nous, parce que ça nous fait comprendre comment Isaïe demeure encore dans les ténèbres du prophète qui annonce de loin. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui montre. C'est pour ça que toujours dans l'iconographie, on montre Jean-Baptiste qui montre du doigt, jugement d'existence. Hein. Voici l'agneau de Dieu. Hein. Il le montre, il est là. Tandis que le prophète, non. Il annonce. C'est une possibilité. Il le voit de loin. Tandis que Jean-Baptiste, il est là. Et le réalisme de la foi liée à l'espérance, et le réalisme de l'espérance qui indique l'agneau. Mais c'est important pour comprendre tout le poids de l'affirmation de Jean-Baptiste quand il dit « Voici l'agneau de Dieu », de comprendre que nous sommes là, comme disent certains exégètes, en face du sens plénier de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire, le symbolisme de l'agneau? C'est très très important pour pénétrer dans tout l'évangile de Saint-Jean. Je crois que c'est la lame de fond de tout l'évangile de Saint-Jean. Le mystère du Verbe et le mystère de l'agneau. J'ai hâte de comprendre progressivement, je veux simplement souligner ici que nous sommes en présence d'une signification plénière. Abraham, Isaïe, Jean-Baptiste. Alors, que signifie l'agneau? Dans Isaïe, c'est neuf. Hein? C'est celui qui doit porter l'iniquité du monde. Celui qu'on mène à la boucherie. Le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, l'agneau d'Isaïe. Et c'est celui qui porte pour le bouc émissaire, vous savez bien ce que ça signifie dans l'Ancien Testament, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est celui qui on va, je dirais, d'une façon très mystérieuse, d'une façon symbolique, dans un symbolisme religieux, dans un symbolisme de réparation. On va charger ce bouc de tous les péchés de la communauté. Et ça, si on faisait ça, on n'a plus besoin de faire ça parce que Jésus. C'est Jésus qui a porté tous les péchés de la communauté. Et je l'aime. Et le bouc, alors le bouc était chargé de tous les péchés de la communauté, et on le menait au désert. Pour qu'il soit évidemment le désert mangé. Pour qu'il meure. Il est chargé, là. En le chargeant de toutes les fautes de la communauté, on le vouait à la mort. Non, on le mène au désert. Alors Isaïe voit cet agneau qui est comme celui qu'on mène à la boucherie. Et Jean-Baptiste voit en Jésus l'agneau. Ça dit être pour Jean-Baptiste hein, une expérience d'une force, une expérience mystique d'une force étonnante. Subitement, vous voyez, subitement, tout Isaïe, toutes les prophéties d'Isaïe prennent leur signification. Elles se trouvent réalisées en Jésus. Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Et Jésus qui vient vers lui. Jésus qui veut le rencontrer. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, il découvre en Jésus celui qui se charge volontairement Tandis que dans le bouc émissaire, ce n'est pas volontaire. C'est volontaire sur ceux qui acceptent de porter avec l'agneau. Le voix que celui qui est chargé de ce péché du monde, il accepte librement. C'est Jésus qui porte l'iniquité du monde. Et il est l'agneau dans la mesure où il porte l'iniquité du monde. C'est-à-dire dans la mesure où il se présente en face du Père comme le seul responsable de toute l'humanité, de toute l'humanité pécheresse. Victime de propitiation, comme dira saint Jean dans le premier épître. Et c'est ça l'agneau, c'est la victime de propitiation. C'est celui qui accepte d'être en face du Père le seul responsable de toute l'humanité. Il porte toute l'iniquité du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il l'enlève en le portant. Parce qu'il se fait le seul responsable. Et donc, c'est satisfait. C'est de lui pour lequel moi j'ai dit, après moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Alors, l'aspect de la généalogie, le réalisme hein, des rapports entre Jean et Jésus, qui se disent tout de suite. C'est celui pour lequel moi j'ai dit, après moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Vous ne pouvez pas savoir qui était cet homme, il savait simplement que j'étais quelqu'un de plus jeune que lui. Et je suis moi plus jeune. Et moi je ne le connaissais pas. Alors ça c'est la vraie humilité. Ce pauvre est humble, il reconnaît. Il a fait une correction fraternelle aux pharisiens, aux lévites et aux prêtres. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, il leur fait comprendre qu'ils devraient le connaître. Et Jean-Baptiste, quand il découvre qui est celui que ce lévite et ce prêtre ne connaissent pas, il est obligé de reconnaître celui non plus. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais pour qu'il fût manifesté à Israël, voilà pourquoi je suis venu, moi, baptisé dans l'eau. Alors, subitement, vous voyez, les écailles tombent. Et il se trouve devant cette lumière divine. L'agneau est là pour que lui-même puisse l'introduire dans le mystère de Dieu. Et Jean témoigna en disant, alors on a une reprise, c'est comme l'enivrement des gens, vous voyez. Alors quand les exégètes disent c'est une petite répétition pour être en état de sujet, pour bien coller les deux bouts, vous voyez que c'est quand même un manque de réalisme au point de vue tout simplement spirituel. On sait que l'amour de Dieu est surabondant. Et donc, quand c'est une expérience intérieure profonde, il y a comme une reprise, qui n'est pas une répétition, mais c'est assez magnifique. Là, on trouve le mouvement de Christ dans l'âme des gens. On trouve le tressaillement des gens. Il y a d'abord cette vision de l'agneau, puis ensuite la vision de l'agneau et de l'esprit. Et c'est une théophanie trinitaire. C'est d'abord une théophanie au niveau de l'agneau, et ensuite c'est une théophanie trinitaire. Et l'agneau est vu dans la lumière même de la très sainte Trinité. Alors on comprend très bien ce double mouvement. C'est même très beau au XXIe siècle de voir ces deux aspects. La première expérience est avec l'agneau, la seconde expérience c'est l'agneau et la très sainte Trinité. C'est toujours toute expérience mystique implique un lien avec la très sainte Trinité. Jésus, l'Esprit, descend comme une colombe venant du ciel et il est demeuré sur lui. Donc Jésus, l'Esprit, descend comme une colombe. Alors le symbolisme de la colombe, l'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe, tous les deux, mais ça c'est la douceur. C'est la tendresse. Vous voyez la très grosse différence, c'est que l'agneau porte l'unité du monde. Et donc, c'est une douceur dans la miséricorde. Parce qu'il se met en place du plus bas. Il se met en compagnie du plus bas, du plus pauvre. Tandis que la colombe, ici, c'est autre chose. C'est autre chose. Jésus, l'Esprit descend comme une colombe venant du ciel. Il est demeuré sur lui. La colombe demeure sur l'agneau. La colombe demeure sur le cœur du pauvre. Et l'agneau, c'est le pauvre qui porte une petite lumière. Alors la colombe est présente dans le cœur du pauvre. Et descend comme une colombe venant du ciel et il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Alors, de nouveau, cette humilité. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Alors tout s'explique, il comprend ce mystère du baptême dans l'Esprit Saint. Et ce baptême dans l'Esprit Saint, il se fait dans la miséricorde de l'agneau. L'agneau seul peut baptiser dans l'Esprit Saint. Tandis qu'avant, il peut y avoir justement un baptême qui est dans l'âme. Celui-là m'a dit, celui sur lequel qui verra l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné que celui me vit de Dieu. Quand vous avez tout l'histoire de la très sainte Trinité qui est présent. Le mystère de l'Esprit, présent au plus intime de Jésus, de fait dans l'âme du Christ, c'est le lieu. Présence de l'Esprit Saint qui conduit au Père et qui relie au Père. Et moi j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui qui m'a vu de Dieu, c'est le lit du Père.